Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Locke Cory. On parle du regroupement québécois du parrainage civique. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet, la génération Alpha, les enfants instruits de la génération Y. Notre collaboratrice est aussi des nôtres, Catherine Stassin, nous propose son sujet, la dysthymie. Nous commençons en chanson avec Mathilde, la chanson s'intitule « Comme une chanson ». Bienvenue à Folie douce.
Comme une chanson, la vie donne le ton. Des années folles, des années bricoles. Comme dans un couplet, la vie fait penser à de petits riens qui ne valent pas rien. Comme une chanson, la vie nous caresse.
Ici Marjolaine
et Justine du projet Sort de ma tête.
Vous écoutez l'émission Folie douce.
J'accueille mon invité, Locke Cory. Bonjour Locke.
Bonjour Yvan.
Bienvenue à Folie douce.
Merci de l'invitation.
Ben, ça nous fait plaisir. Tu es directeur général du regroupement québécois du parrainage civique.
Oui.
Parrainage civique, ça fait longtemps que ça existe. Est-ce que tu peux nous situer ce que c'est le parrainage civique? Puis on parlera du regroupement, puis on parlera des activités et de tout. On a beaucoup de temps quand même.
Donc, le parrainage civique, ça existe déjà depuis une quarantaine d'années.
Ouais.
Donc, un peu plus de 40 ans. Et puis, en fait, nous, ce que l'on fait, c'est du jumelage entre un bénévole et une personne vivant avec une limitation. Donc, cette limitation, ça peut être une déficience intellectuelle, un handicap physique ou une problématique en santé mentale, d'où mon invitation
à Folie Douce sur cette émission, effectivement. Le parrainage civique, donc, existe depuis longtemps. Il y a des organismes qui existent dans plusieurs régions du Québec. C'est un peu partout, oui. Là. Hein?
On est une petite vingtaine d'organismes à travers le Québec. Il y en a 3 à Montréal, 4 en Montérégie. Il y en a même 1 en Abitibi.
Ouais.
Donc, on est vraiment un peu partout. Pas partout, mais un peu partout.
Et pourquoi c'est important de parrainer, d'avoir cette activité-là auprès des gens?
Pourquoi ça a existé et pourquoi ça continue d'exister?
Ça fait longtemps.
Oui, ben parce qu'en fait, c'est né de la désinstitutionnalisation.
Bravo.
Donc, ouais.
Sans accrocher, c'est bon.
Mais donc, on est né de cela pour donc mettre en avant les personnes vivant avec une limitation que l'on cachait avant. Donc nous, on veut les remettre à leur place, c'est-à-dire à une place de citoyens et de consommateurs qui sont
dans l'action.
C'est ça.
Aussi, hein.
Et donc, moi, je prends souvent l'exemple pour mettre maintenant la relation aujourd'hui. Quand on va dans des restaurants, dans des bars, prendre un verre ou quoi que ce soit, on n'en voit pas beaucoup.
Mm-hmm.
Et donc, nous, grâce au jumelage, c'est ça, on les remet sur la map. Et petit à petit, grâce à cette relation de jumelage, le lien qu'il crée avec le bénévole, la personne reprend confiance, tout simplement, à faire des choses qui peuvent paraître anodines pour nous, mais qui sont peut-être beaucoup pour elle.
Oui, parce que dans le fond, la santé mentale, on a beau dire qu'on en parle plus, puis que les gens comprennent plus, mais ça reste tabou. Je pense aujourd'hui, ça reste tabou. Puis on a l'impression que, en théorie, c'est beau. Mais en pratique, c'est une chose. Alors, c'est des gestes comme ça, je pense que ça fait la différence.
C'est totalement ça. C'est qu'ils sont totalement conscients de leurs problématiques en santé mentale. Ils vivent avec ça. Mais les gens ont parfois un regard pas forcément bienveillant sur eux.
Mm-hmm.
Donc, notre slogan, nous, c'est « La différence, c'est vous qui la faites ». La différence, c'est vous qui la faites, les gens, au niveau du regard que vous leur portez à ces gens-là. Mais la différence, c'est vous qui la faites également en vous impliquant au sein du parrainage civique. Donc, nous, le parrainage civique, on veut vraiment remettre en lumière ces personnes-là et leur dire « Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vivre, de consommer en tant que citoyen et consommateur, comme tout à chacun. »
Oui, tu es directeur général donc de ce regroupement québécois du parrainage civique. Qu'est-ce qui t'a amené à ce poste-là? Est-ce que tu avais déjà un cheminement
Du tout. Moi, j'ai étudié en économie et en communication. J'avais occupé quelques postes auparavant en direction dans le communautaire avant d'atterrir au regroupement québécois du parrainage civique. Et en fait, quand j'ai été pris pour cet emploi, c'est là que petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs personnes dans mon entourage, peut-être un peu plus éloigné, mais qui était touché par une problématique en santé mentale ou par la déficience intellectuelle aussi que l'on représente.
Ouais.
Mais donc, vraiment, ça a été soudain pour moi. Mais c'est une cause, maintenant, depuis 2013, qui me tient à cœur et ces gens-là me tiennent à cœur.
Et vous faites, je pense que vous tenez une journée bien spéciale. Est-ce que c'est à chaque année, à l'automne, je pense?
Oui, on a notre journée nationale qui est le 25 septembre. Chaque année, oui. Chaque année, on célèbre cette journée québécoise du parrainage civique. On essaye de promouvoir le mouvement, notre service, donc le jumelage qui est vraiment notre spécificité dans le réseau. Et donc, à travers plusieurs événements de nos organismes, mais également nos porte-paroles Marco Cagliari.
Ouais.
Chanteur, on fait une tournée et on essaie de promouvoir tant bien que mal notre mouvement.
Est-ce que tu vois que la santé mentale quand même est mieux perçue avec les années? Quelle est ta perception? Puis quelle est la perception peut-être des porte-paroles, des gens qui s'impliquent, qui chanteurs bien connus, porte-parole entre autres?
Honnêtement, la santé mentale depuis une dizaine d'années, et puis moi je l'ai vu l'évolution, elle est mieux perçue. Mieux aussi vécu par les gens qui vivent avec une problématique en santé mentale. Le discours par rapport à la santé mentale a beaucoup évolué. Enfin, moi, ça, c'est un œil vraiment de mec qui est vraiment là-dedans depuis une dizaine d'années.
Ouais.
Je le vois, l'évolution, par les vedettes qui en parlent, les journées comme Belle pour la cause. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup de moyens. Même si, dans le communautaire, on est toujours là à vouloir plus de moyens. Mais au niveau de la santé mentale, ça a quand même été beaucoup privilégié comme cause par le ministère.
Ouais, on a toujours l'impression, par contre, qu'il y a une tranche de la société, une tranche de population qui est comme un peu mal informés, pas parce qu'ils n'ont pas d'informations. Je pense qu'on en a de plus en plus. Là. Il y a de plus en plus d'émissions, d'articles, de toutes sortes de choses, même des gens qui sortent publiquement, qui en parlent et tout ça. Mais on a toujours l'impression qu'il y a une partie de la population qui est difficile à informer. Puis c'est un peu pour ça qu'on travaille tous, dans le fond, pour démystifier la chose, parce que ça reste un peu... ça reste des fois un mystère pour plusieurs, la santé mentale. T'sais. C'est comme quelque chose qui est comme...
Tabou.
Ouais, c'est pas la santé. T'sais, la santé, on dirait que les gens l'ont accepté. Ils savent que, bon, des fois, malgré nous, on peut avoir un problème de santé physique. Mais santé mentale, on a toujours l'impression que c'est comme si certaines personnes pensaient que c'était comme voulu par la personne qui a des problématiques, alors que ça reste une maladie, ça reste une problématique comme une problématique de santé.
C'est ça, enfin. Et puis... nous, ce que l'on dit souvent, mais c'est qu'on peut, entre guillemets, tous passer par une phase où, entre guillemets, on est moins bien mentalement, un petit spleen, enfin, un petit coup de moins bien, une dépression, ça fluctue.
Ouais.
Donc, on est tous affectés par quelque chose que l'on vit ou quoi que ce soit. Et puis, ça a un lien avec la santé mentale qui peut perdurer, malheureusement, pour certaines personnes. Donc, nous, on est là vraiment pour dire, n'ayez pas honte. On vit avec, on peut vivre avec. Donc, et on a d'autres regroupements. J'ai d'autres collègues de regroupements Mouvement Santé Mentale Québec ou les regroupements de ressources alternatives également en santé mentale au Québec qui font la promotion, entre guillemets, de pouvoir vivre comme vous êtes sans forcément de médication ou quoi que ce soit.
Ouais.
Et donc, nous, le parrainage civique, on est vraiment plus un service de seconde ligne par rapport à la santé mentale, mais plus par rapport vraiment... par le lien social que nous, on va créer pour une personne qui vit de l'isolement social avec sa problématique en santé mentale. Donc nous, le jumelage, enfin le lien que l'on crée, c'est vraiment pour qu'il reprenne confiance en lui. Grâce à cette relation de jumelage, il peut retrouver un confident, il peut en parler, et puis il va refaire des choses, comme je vous l'ai dit, qui peuvent paraître banales pour nous, mais pour lui, ça va être peut-être beaucoup, parce qu'il va reprendre confiance en lui.
Comment ça fonctionne, le jumelage? Est-ce que les gens se manifestent? Vous avez des gens qui sont prêts à... C'est un peu des pères aidants, d'une certaine façon. Comment ça fonctionne, en fait, le jumelage?
Alors, le jumelage, donc, il y a à peu près déjà... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près un peu plus de 1000 jumelages à travers le Québec.
Okay.
Il y en a 700 en attente. Et en fait, le processus de jumelage, nous, on demande 2 à 3 heures par mois pour le bénévole. Il peut l'espacer comme il le souhaite.
Et c'est pas nécessairement quelqu'un qui a vécu des problèmes de santé mentale.
Non, du tout, un bénévole.
Quelqu'un qui veut s'impliquer.
C'est ça, c'est quelqu'un qui veut s'impliquer. Moi, je leur dis souvent, venez comme vous êtes.
Ouais.
Parce que nous, vous allez partager qui vous êtes en tant que bénévole. Et nous, on va essayer de trouver un match parfait, que ça soit similaire ou complémentaire.
Ouais.
Donc, ça va vraiment dépendre des deux personnes pour vraiment créer une belle relation. Donc, nous, on les encadre, on les forme. Que ce soit sur la santé mentale, expliquer les problématiques en santé mentale de nos membres. Mais donc, nous, on les accompagne là-dedans, dans ce processus. Donc, le bénévole n'est pas vraiment... il n'est pas laissé comme ça avec le filleul, parce qu'on les appelle les filleuls.
Ouais.
Il n'est pas laissé comme ça avec
parrains,
le filleul.
Les filleuls,
on les accompagne vraiment dans tout le processus. Il y a un suivi, il y a des formations. Enfin bon, bref, on est là vraiment pour encadrer. Et voilà ce qui fait notre spécificité dans
la zone. Et c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est que la personne a aussi une personne normale, entre guillemets, même si la normalité n'est jamais... il n'y a personne de normal, mais ça prend une personne qui vit, que sa vie, puis qui vient comme influencer, peut-être qui vient aider la personne qui a des problèmes d'éthique de santé mentale.
Totalement ça.
Qui n'est pas normal en passant, mais je veux dire, ça reste que... on a l'impression qu'on fait moins un plat, puis on se dit, ben on jumelle avec quelqu'un qui va matcher avec cette personne-là.
Ben, c'est ça. Ben, on développe aussi, puis si on y va comme ça, là, sur l'exemple que tu me sors, mais on y va sur l'autonomie, par exemple, de la personne qui va vivre avec une problématique en santé mentale, par exemple, pour prendre le bus, des choses comme ça, s'il y a des petites réticences ou quoi que ce soit, bah petit à petit...
Il y a des phobies, des fois.
Oui, c'est ça, mais pour aller voir éventuellement mon ami, mon bénévole ou quoi que ce soit, bah je vais devoir prendre ça. Peut-être qu'ils le font au tout début ensemble ou quoi que ce soit. Enfin bon, bref, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont juste, entre guillemets, faire leur commission juste ensemble.
Ils
partagent un moment juste
ou
leur
sortie,
commission. C'est ça, ça peut être tout simple. Prendre un café, prendre
cinéma,
une marche, cinéma, ou regarder un film, cuisiner ensemble, prendre le plaisir de cuisiner. Parce qu'il y a également tout ce qui est côté... malheureusement, tout ce qui est malbouffe, malnutrition, livraison un peu trop, prendre le plaisir de cuisiner ensemble ou quoi que ce soit, se faire des petits plats ensemble ou peut-être dire « Ah, bah, je vais cuisiner pour la prochaine semaine avec mon filleul » ou inversement, le filleul avec le bénévole, on va cuisiner ensemble. Ils s'apportent l'un et l'autre.
Ça donne une autonomie. J'aimerais qu'on parle de la maison, l'atypique en fait. Qu'est-ce que c'est?
Donc, c'est les Jumeleurs Espaces Communautaires, un organisme à Montréal qui a un bel espace et en fait, je vous le disais, mais on en voit peu des personnes atypiques.
Ouais.
Et donc, nous, il y a une maison de jeunes et on ne sait pas si à travers le Québec, il faudrait faire nos recherches, mais en tout cas, nous, c'est un projet qui sort du commun, mais c'est-à-dire qu'on va recevoir des jeunes dans une maison de jeunes atypique, tout comme les maisons de jeunes qu'il peut y avoir au Québec, mais là, donc, qui vivent avec une limitation, une différence. Donc, on va la promouvoir. Donc, ça va être ouvert de mémoire, mais ma collègue va sûrement revenir vous en parler, mais ça va être ouvert du lundi au samedi. Je sais que ça va être du lundi au vendredi, c'est sur les heures de soirée, jusqu'à 21h30, il me semble. Et le samedi, ça va être durant la journée. Donc, ça va être un espace où va y avoir des activités comme une véritable maison de jeunes. Sauf que évidemment que nous en termes d'âge on va aller beaucoup plus loin, mais il y a des animateurs il y a une programmation, donc n'hésitez pas à venir à l'Atypique, c'est vraiment Jarry 2e avenue à Montréal.
Ok, donc c'est quand même nouveau, c'est quand même axé plus justement, vous ne faites pas trop de différence, en fond ça peut être des problématiques de santé mentale ou ça peut être autre chose, en fond c'est,
oui,
c'est
une
place où les jeunes vont se retrouver.
C'est ça, les jeunes et les moins jeunes, comme je vous le disais, ouais, qui vont pouvoir se retrouver, faire des activités ensemble, comme je vous le dis, encore socialiser. Nous,
ouais,
ce que l'on fait au parrainage civique, c'est que nous, on tisse du lien, comme
on dit. J'aimerais qu'on puisse se donner les coordonnées. Je pense que la meilleure façon, tu sais, pour avoir les informations, que ce soit pour la maison, l'Atypique ou toutes sortes d'informations, si les gens même veulent probablement devenir bénévoles, veulent s'impliquer, comment on fait pour en savoir plus sur...
Alors, tout simplement en allant sur notre site internet parrainagecivique.com ou sur notre page Facebook RQPC, et là vous allez me dire peut-être pourquoi, mais c'est pour Regroupement québécois du parrainage civique. Donc n'hésitez pas à nous contacter, et vous savez quoi, vous allez même tomber sûrement sur moi si vous contactez. On est une petite équipe, donc n'hésitez pas à me contacter, et moi il me fera plaisir de vous référer à l'organisme le plus proche de chez vous.
Ça semble être très dynamique et très motivant, alors j'invite les gens à le faire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Locke Cory, tu es directeur général en fait du Regroupement québécois du parrainage civique. Merci et à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Bye. Je serai
Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
C'est maintenant le moment pour le segment Espresso. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, la génération alpha, les enfants qui sont instruits finalement de la génération Y.
Exactement, oui. C'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui porte exactement ce titre. La génération alpha, les enfants instruits de la génération Y. J'ai pris ça sur le site qui s'appelle Kaleido.ca. Et c'est écrit par un monsieur du nom de Carole Alain, qui est conférencier, auteur et consultant et formateur. Alors, ce monsieur Alain commence en nous disant, si vous êtes né entre 1980 et 2010, alors sachez, si ce n'est pas déjà le cas, que vous êtes issu soit de la génération Y, soit de la génération Z. À chaque époque, son étiquette. La prochaine génération sera celle des alphas. Autrement dit, les enfants d'aujourd'hui, nés entre 2010 et 2025. Quel avenir pour eux? Quel changement attendu? Et quelle évolution globale les attend? La génération qui suivra a déjà un nom donné par un monsieur du nom de Mark McKendall, qui est chercheur australien en sciences sociales. C'est la génération bêta qui naîtra de 2025 à 2039. Chaque semaine, plus de 2,8 millions d'alpha naissent dans le monde. Une personne sur sept fait partie de la génération alpha. En 2025, ils seront plus de 2,2 milliards. L'une des notions clés dont il faut prendre toute la mesure, c'est l'impressionnante diversité de cette génération. Les données démographiques indiquent, par exemple, que les États-Unis se diversifient de plus en plus d'un point de vue ethnique. Pour l'instant, on peut simplement esquisser un bref portrait et émettre certaines hypothèses. Comme les Z, ils sont issus de l'ère numérique. Ces enfants échographiés en 3D avant leur naissance ouvrent aujourd'hui leurs yeux dans un univers hautement technologique. Autour d'eux se trouvent partout des écrans, des tablettes, des ordinateurs, des lunettes de réalité virtuelle, des jeux vidéo dans lesquels ils plongent avec bonheur, souvent même avant d'apprendre à parler.
Ils n'ont pas trop connu, tu sais, on a eu la chance, nous autres, de connaître plusieurs époques mm-hmm. sans Internet, avec Internet.
Ouais. Mais on a vu ça arriver.
Moi, ouais, c'est quand même difficile, je pense, pour une génération comme ça qui n'a pas vu avant.
Ouais, peut-être qu'il ne faut pas trop les blâmer un peu.
Est comme différente. Là, la débrouillardise ouais. sans technologie, comment ouais, faire?
C'est tellement alléchant, en plus. C'est dur à résister pour des jeunes enfants.
C'est sûr.
Omniprésent, M. Alain nous dit, l'écran a désormais supplanté le clavier chez les alphas, aussi appelé pour cette raison génération VERRE, V-E-R-R-E. Au Québec, on s'inquiète de la place grandissante des écrans et de l'incidence psychologique de la vie numérique. Dans un article paru dans la presse, dans un récent passé, la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, la docteure Karine Igartua, instigatrice du mouvement Alpha Connecté, lançait ce cri d'alarme. Elle nous disait « Le temps d'écran gruge, entre autres des heures de sommeil, diminue la propension des jeunes à faire de l'activité physique et réduit leurs interactions sociales, autant de facteurs qui augmentent les risques de souffrir de troubles mentaux. » Fin de la citation. Au Québec, le tiers des jeunes fait face à un niveau élevé de détresse psychologique. Les troubles mentaux ne font qu'augmenter et les troubles anxieux ont doublé dans les dernières années.
Ouais.
Ce n'est pas rien.
C'est quand même inquiétant.
Ça. Oui. Alors, le petit alpha grandit au sein d'un monde en transformation accélérée. Famille traditionnelle, monoparentale, homoparentale, transgenre, recomposée, tous les modèles sont possibles. Avec lui, la fin des genres deviendra peut-être une réalité. L'alpha, via ses parents, vit souvent de l'instabilité sur différents plans, soit le logement, l'emploi, les finances, etc., ce qui devrait lui donner une grande capacité d'adaptation. cette génération sera la plus instruite, la plus connectée et globalement aura des moyens financiers supérieurs aux générations précédentes. Plus encore que les Z, les Alpha googleront et s'auto-initieront à une foule de choses dès leur plus jeune âge. Sans jamais se déplacer et depuis la maison, ils ont déjà accès à une somme incroyable de connaissances à travers leurs écrans, un objet devenu un véritable outil pédagogique. Il y a fort à parier que cette génération sera tout aussi ludique, intuitive et créative que la génération Z, dont elle renforcera les acquis sur le plan technologique. Les parents seront donc invités à les accompagner financièrement dès leur jeune âge afin de sécuriser leur avenir académique. Cet accès précoce, nous dit M. Alain, aux connaissances changera leur rapport au savoir, qui sera sans doute plus utilitaire et opportuniste, soutient le sociologue-auteur Rémi Oudguiri. Plus pragmatique encore que les Z, les Alpha seront en quête de solutions pour répondre à des problèmes spécifiques comme la pollution et le déclin de la biodiversité sur la planète. Plus autonomes encore dans leur apprentissage que les générations précédentes, ils souhaiteront créer leur propre modèle pédagogique en dehors de l'école traditionnelle. M. Dan Schaubel, un expert générationnel américain, croit même que dès l'âge de 10 ans, certains auront déjà créé leur propre entreprise, à l'image des Z. À partir de ces premières observations, on sait déjà que plus rien ne sera comme avant pour cette génération en devenir, ce qui soulève d'importantes questions, comme par exemple, qu'adviendra-t-il de l'école ou de l'université alors que les Z prônent déjà une réforme complète de leur concept? Et je poursuivrai tantôt.
Oui, intéressant. Donc, on poursuit avec le même sujet plus tard à l'Espresso allongé.
La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
C'est maintenant le moment d'accueillir notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvon.
Aujourd'hui, ta chronique, c'est la dysthymie.
Oui.
On va apprendre ce que c'est.
On va apprendre ce que c'est.
Je ne pense pas que beaucoup de gens savent ce que c'est.
Non, c'est un terme qui n'est vraiment pas facile. On voit dès le départ, dysthymie, qu'est-ce que ça peut bien être?
Ben oui.
Et en fait, pourtant, ça touche pas mal de personnes sur la population américaine, parce que je n'ai que des chiffres américains, c'est plus d'1,5% de la population adulte aux États-Unis.
Mm-hmm.
Donc, hommes, femmes confondus, donc c'est quand même pas mal de chiffres.
Et ça doit se ressembler au Québec aussi, ici, là, et un peu partout.
J'imagine.
C'est ça.
Puisque, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une... du fait d'être déprimé en permanence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une période dépressive suite à un événement, un licenciement, un burn-out, etc., ou un événement traumatique, mais c'est quelque chose qui est récurrent, persistant, de plus de 2 ans.
Est-ce que c'est une problématique, est-ce que c'est une pathologie?
Oui, c'est référé dans le fameux guide donc des médecins. Tout à fait, oui, c'est vraiment le nom utilisé, dysthymie, c'est-à-dire que c'est le moment à partir, si vous êtes déprimé de plus de 2 ans, que c'est persistant, que c'est chronique et ça peut être quelquefois moins sévère qu'une dépression grave, mais ça peut être aussi sévère. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre. On va voir un petit peu dans le fond. Mais c'est quoi l'origine? Pourquoi est-ce qu'on peut attraper, entre guillemets, la dysthymie comme on attrape autre chose?
Oui.
Et les chercheurs sont pas mal d'accord pour dire qu'il s'agit de personnes qui ont vécu dans leur enfance un événement ou traumatique ou une carence affective importante, donc c'est aussi un traumatisme à cette manière. Ça peut être de la violence aussi, ça peut être de l'inceste. Donc c'est quelque chose qui va aller dès l'enfance s'imbiber, disons, chez la personne et faire en sorte qu'à l'âge adulte, elle est dans cet état permanent dysthymique.
Oui, c'est souffrant certainement parce que
alors,
quand c'est sans arrêt... Là,
tu dis vraiment le mot. Oui. C'est vraiment une souffrance psychique profonde parce que ça dure et ça peut mener à l'autodestruction ou à la destruction de soi par différentes modes, hein. Ça peut être toxicologique, etc. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment intégré par la personne qui est dysthymique. Si elle ne le sait pas, elle peut s'imaginer, tiens, dans le fond, je suis comme ça depuis toujours, c'est juste ma personnalité. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est ça dont il faut prendre conscience en se disant, mais est-ce que je correspond, est-ce que je rencontre les symptômes officiels, ouais. On va dire ça comme ça.
Ouais, ouais.
Et c'est quoi ces symptômes officiels? C'est vrai que un des grands symptômes, c'est un ralentissement psychomoteur. Donc, tout paraît plus difficile physiquement et même en parler ou faire partie d'une conversation active, okay. etc. Réduction de notre énergie. Ou encore, on peut avoir une fatigue intense et dès qu'on se réveille, on a à peine sorti du lit, on est déjà fatigué. Et pourtant, on a dormi une nuit plus ou moins bonne. Hein. Disons que la nuit, on a dormi.
Ouais.
Il y a une fatigue dès la matinée et c'est tout le temps, toute la journée.
Certains parlaient peut-être de fatigue chronique, là, mais c'est peut-être ça.
Alors ça, je crois que ça peut être une maladie aussi. La fatigue chronique, ça dépend s'il y a vraiment quelque chose qui est physiologique. Ici, c'est vraiment psychique.
Mais c'est la déprime qui fait que...
C'est ça.
On est déprimé,
comme quand on a une vraie dépression, entre guillemets. Ouais. C'est une dépression, mais c'est une dépression qui persiste dans le temps. Imaginez-vous, ça peut jouer sur d'autres effets... la personne va peut-être dire « Oh, mais de toute façon, moi, je suis de nature pessimiste et je ne vaux rien, donc basse estime de soi, etc. » Donc, tout ça, c'est des symptômes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Est-ce que ça fait plusieurs années que cette personne est dans cet état-là? Est-ce qu'elle arrive à se gérer? Est-ce qu'elle est fonctionnelle au quotidien? Est-ce qu'elle est capable de travailler ou de gérer son appartement, sa maison, ses enfants, etc.?
Mais c'est quelque chose qui a commencé à un moment donné. Là. C'est quelque chose qui a commencé peut-être il y a un an, deux ans, trois ans, peu importe, mais c'est quelque part dans le temps, j'imagine.
Oui, quelquefois c'est diffus parce que ça peut commencer aussi bien à l'enfance. Mais ça s'imprègne dans la personnalité. Donc la personne, ça n'arrive pas comme du jour au lendemain après le traumatisme, mais c'est quelque chose dont la personne va dire, oh, ben, de toute façon, je suis comme ça. Mais du coup, elle ne se rend plus compte que c'est un état de dysthymie, en fait. Et ce n'est pas sa personnalité d'être à ce point dans cet état-là.
Et c'est pas normal, entre guillemets, d'être dans un état comme ça. T'sais. Un être humain devrait avoir une certaine qualité de vie, puis une certaine joie de vivre, puis un certain...
Mais tu mets de nouveau le doigt dessus avec, un, la souffrance dont tu parlais, et puis la qualité de vie. Donc cette personne, tout est difficile pour cette personne. Peut-être que tu as connu des gens comme ça, où ça vous sonne une cloche maintenant en disant, mais pour cette personne, tout a l'air pénible, tout a l'air difficile. Peut-être qu'il y a quelque chose, ou pas, hein, derrière ce type de comportement ou de dire, d'accord?
Ouais.
Ici, je voudrais souligner le danger pour ces personnes, d'accord? Le danger ici, c'est de dire, en effet, on a toujours été comme ça, et des fois, parce que des fois, ça peut être héréditaire si le père ou la mère, ou dans la famille, ça court, ouais, mais on est comme ça, on est pessimiste, etc. Il faut faire attention, il faut vraiment distinguer et se dire que faire appel à un professionnel.
Mm-hmm.
Parce que la personne ne va pas, comme on est habitué à cet état, elle ne va pas sentir la dépression majeure venir. C'est-à-dire que l'état dysthymique peut être, cet état, ce parcours peut être, interrompu, ou en tout cas, il peut être marqué par aussi des dépressions majeures, avec pensées suicidaires, etc., ou même déjà pendant la dysthymie. Mais donc, cette personne ne verra pas cet état arriver parce qu'elle est déjà là-dedans.
Mm-hmm.
Donc là, il y a vraiment un danger. Parce qu'elle ne le voit pas venir. Donc ça, c'est vraiment peut-être à l'entourage ou à ces personnes qui se reconnaissent en entendant ce dont on discute, de se dire « Oh, dans le fond, mais je pourrais peut-être correspondre à ça. Il faut que je parle à un professionnel. »
Parce qu'il y a des symptômes, comme tu parlais tantôt, la, comme tu disais, la fatigue qui est omniprésente, comme tu disais, au lever là, du lit. Là, je veux dire, c'est pas normal. Là.
Non, tout à fait, c'est pas normal. Et des fois, si on va chez le médecin, on dit « Oh, ben je crois que je dors bien, mais peut-être que je dors pas bien. Je suis fatiguée le matin, le midi, le soir. »
Il y a d'autres symptômes aussi, je pense, qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille.
Il y a d'autres symptômes. Ça peut être aussi bien une perte d'appétit que trop manger et passer par des périodes où on mange trop, passer par des périodes où on ne mange pas. L'estime de soi, comme j'ai déjà dit, la mésestime de soi, voir tout en noir, etc., mais de manière persistante, d'accord? Donc, peu importe les événements qu'on arrive à vivre dans la vie, ça continue de cette manière-là. Bon, les bonnes nouvelles ici, c'est qu'il y a des traitements, d'accord? Il y a des traitements qui, dans un cadre, le cas de la dysthymie, conseillent et une médication et un suivi psychologique, donc une thérapie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, comme ils attribuent cet état dysthymique à une mauvaise structure pour l'accueil de l'enfant, donc que ce soit manque d'affection ou traumatisme, violence, etc., il faut aller retrouver ces événements et travailler ces événements avec une psychologue ou un psychologue. Donc, aller faire un travail de longue haleine, de thérapie et... En plus, être aidé, souvent les médicaments peuvent être semblables à la dépression. Donc, on va vous fournir des antidépresseurs. Et en plus, ils pourraient peut-être aussi vous donner un certain degré de somnifère pour être sûr que le sommeil soit réparateur.
Ouais.
Donc, il y a une médication qui est jamais la même pour les personnes. D'accord ? C'est vraiment un ajustement. Ces personnes doivent évidemment avoir une hygiène de vie, idéale, parce que c'est sûr que le physique ne va pas suivre si on dort pas bien, si on sort pas beaucoup, on mange mal ou pas ou peu ou trop, ça va pas.
On n'a pas de relations sociales.
Voilà, aussi, tout à fait, parce que c'est sûr que ça isole d'être dans un état comme ça. Qui veut fréquenter du monde qui se dit toujours, qui n'arrête pas de dire « ouais, je suis fatigué, j'en ai marre », etc.
C'est ça.
Beaucoup de monde, à part quelques vrais amis, vont vous fréquenter.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'il y a un suivi à ce niveau-là, thérapie, médication... Et réapprendre, comme tu dis, tu parles d'isolement social, réapprendre, et c'est à des thérapies un petit peu sur mesure, les thérapies plus cognitivo-comportementales, qui vont faire que vous allez réapprendre ce que c'est une relation saine.
Mm-hmm.
Si vous avez souffert, par exemple, de relations qui n'étaient pas saines dans votre enfance, ou d'abus affectifs, ou de manque affectif, vous allez voir que, dans le fond, il y a des gens qui pourraient être intéressés par vous, et vous pouvez aussi dire non à des gens que vous trouvez, entre guillemets, louches ou qui ne vous font pas du bien. D'accord ? Donc, vous allez réapprendre un petit peu avec ces thérapies-là et passer et vraiment prendre conscience de tous ces carences ou ces traumatismes et ou d'ailleurs. OK ? Et il y a évidemment de l'espoir dans le sens où il y a une reconstruction possible. À partir du moment où il y a reconstruction, à ce moment-là, il peut y avoir du répit. Mais il faut évidemment qu'il y ait une reconstruction et une consolidation de la reconstruction. Ça fait beaucoup d'éléments. Donc, ce n'est pas un travail d'une semaine à l'autre, c'est un travail qui prend très longtemps.
Et ce n'est pas seul qu'on fait ça, comme tu le disais tantôt.
C'est extrêmement difficile, je crois, de passer des caps comme ça seul. Peut-être que certains y arrivent. Je ne sais pas, ce serait intéressant de recevoir du monde, en tout cas.
Bien, déjà d'avoir le diagnostic...
Peut-être ce témoignage.
Oui, hein. Déjà d'avoir le diagnostic associé à notre personne. Parce que, comme tu disais tantôt, il n'y a pas un seul modèle pareil, si on peut dire, l'expression modèle.
Exact. Il faut encore que vous soyez diagnostiqué, parce que si votre médecin vous voit juste comme quelqu'un qui râle tout le temps ou qui creuse pas un petit peu, alors ça n'ira pas non plus. D'accord?
Ouais.
Donc, j'ai parlé qu'il y avait une association de médication et de thérapie, et j'ai parlé de la thérapie où on va donc essayer de reconstruire, de repenser certains comportements et de réussir à chasser les ruminations. Donc, souvent, on parle de ça en psychologie. Donc, on a le hamster dans la tête et on n'arrête pas de penser aux mauvaises choses, etc. Donc là, peut-être se dire, ben, c'est ma vue, mon interprétation. Est-ce que la situation est vraiment telle qu'elle ou est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? C'est peut-être pas, c'est la situation uniquement comme je la vois, mais elle n'est peut-être pas comme telle. Voilà. Et alors, encore juste une petite chose à dire ici, c'est qu'il y a aussi des thérapies qui sont plus interpersonnelles, où on va plutôt aller à la rencontre de l'autre, comme en groupe, à l'institution Revivre, qui est bien connue. Hein. Là, j'ai marqué les coordonnées.
Qu'on va mettre sur notre site web, il reste quelques secondes seulement, on va mettre ça sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie 2 sous ta chronique sur la dysthymie. Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs références intéressantes. Un dernier mot en quelques secondes, Catherine?
Je pense que quand je parlais de la thérapie interpersonnelle, c'est bien de le mentionner parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça plus chouette d'aller en groupe et de partager leur vécu.
Très efficace,
évidemment,
les
c'est
groupes,
tout confidentiel.
Oui, mais les groupes, ça, apparemment, ça a un bienfait vraiment.
Je trouve.
Prouvé,
et puis, vous pouvez rester en contact avec ces gens après, etc. Ouais. Donc, et il y a des groupes où vous pouvez revenir. C'est comme un abonnement où vous pouvez revenir régulièrement.
Ouais. Merci beaucoup, Catherine Stassin, pour cette chronique.
Merci,
sur la dysthymie. À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Fais-moi rêver, fais-moi oublier. Dis-moi comment chasser ce chagrin de mes pensées. Et comment retrouver toutes les joies du passé. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. Aujourd'hui j'ai l'âme qui divague. Mon cœur fait beaucoup trop de vagues. Il y a tous les éléments qui se déchaînent. Il y a trop peu d'amour et tant de haine. Montre-moi comment tu fais pour sourire. Alors que tout autour semble se détruire. Explique-moi d'où émane ta lumière. Et comment faire face à tant de misère.
Soyez branchés, déboussolés, renfermés ou éclatés, vous syntonisez actuellement Folie douce.
Nous poursuivons avec le sujet débuté plus tôt, Pierre, ton sujet à l'Espresso allongé, la génération Alpha, qui sont les enfants instruits de la génération Y.
Mm-hmm. C'est écrit par un monsieur du nom de Carole Alain, qui est conférencier, auteur, consultant et formateur. Il y a quatre métiers, ce monsieur-là.
C'est quand même
intéressant.
Multitâche.
alors, monsieur Alain nous disait que...
Puis il y a deux prénoms aussi.
Il y en a qui sont chanceux.
Ah oui, il y a un prénom pour notre famille. Hein.
Oui. Alors, il nous dit qu'on sait déjà que plus rien ne sera comme avant pour cette génération à devenir, ce qui soulève d'importantes questions. Donc, j'avais commencé la liste, il y en a sept en tout. La deuxième question, c'est l'enseignement sera-t-il dispensé en ligne par des enseignants en classe et selon des séquences différentes au fil de la journée, ce qui provoquerait un grand bouleversement de notre monde, une révolution même. Troisièmement, les alphas devront-ils apprendre à conduire alors que s'amorcera bientôt l'ère de la voiture sans conducteur? Quatrièmement, quelle sera la place de l'activité physique dans leur vie? Cinquièmement, auront-ils à apprendre une langue étrangère alors que les traducteurs intelligents se multiplient et se perfectionnent sans cesse? De nombreuses applications proposent déjà d'apprendre une langue gratuitement en un temps record.
J'ai l'impression qu'il y a plus de changements avec les alphas qu'il y a eu, par exemple, dans le passé, tu sais, les jeunes des années 70.
Comme si ça allait en accélérant.
Oui, mais il me semble qu'il y avait des changements par rapport aux générations précédentes, mais il me semble pas autant qu'à la génération actuelle.
Hein. On dirait que oui, c'est comme exponentielle, ouais, comme disent les...
Beaucoup de changements, là, même l'éducation dont tu parlais, tu vois.
Ouais. Alors, autre question, prépareront-ils encore des repas ou laisseront-ils à des robots la corvée des tâches ménagères?
Les fameux robots. Hein.
Ensuite, les applications numériques pour commander en ligne feront-elles l'objet d'une plus grande vigilance, ne serait-ce que par l'abus de leur utilisation?
Il y a ça de beau, Pierre, si je peux me permettre. Oui. Autrefois, je ne veux pas dire que c'était le bon vieux temps, là. Mm-hmm. Mais tu sais, on apprenait peut-être à chercher par nous-mêmes, on apprenait... Tu sais, il y a, oui, y a peut-être vrai, ce côté-là ça. Que la technologie amène, mais tu sais, amène une facilité. Là, mais
on dirait des fois, on a l'impression que les jeunes, la jeune génération, on a l'impression qu'ils sont un petit peu paresseux.
Ils sont moins débrouillards, je dirais.
Peut-être.
Ça. Oui. Ils ont moins été forcés d'être débrouillards. Peut-être qu'ils ont d'autres qualités, mais moi, c'est ce que je remarque souvent. Mm-hmm. Ouais.
Alors, M. Alain poursuit en disant « Sur le plan humain, on peut d'abord s'interroger sur le rôle parental et l'orientation qu'il prendra. Sera-t-il question de moi, plus individuel et plus personnel, comme « moi, je veux, moi, je prends » ou alors serons-nous témoins d'une éducation parentale axée sur l'autre et prendre soin de l'autre ?» L'auteur, M. Dan Schaubel, a déjà évoqué dans ses livres précédents et ses conférences combien il est important pour la structuration d'une personnalité de développer le savoir et le savoir-faire et par la même occasion les mots pour le dire et la politesse des manières. Les parents de la génération alpha devront rompre de leur identité de consommateur à l'excès. Ce fameux « moi d'apport » acclamé par les générations Y et Z semble prendre la forme d'un revers face au projet collectif, à la méfiance occasionnée par le progrès et à la nécessité d'accepter des contraintes et des limites. Dans une telle situation, il sera impératif que les nouveaux parents offrent la possibilité d'un retour, ne serait-ce que partiel, à des valeurs dites du passé comme l'engagement, la loyauté, le sacrifice ou le devoir. Il serait souhaitable que cette nouvelle jeunesse puisse aussi s'exprimer sous des formes variées, c'est-à-dire orales, musicales, écrites ou manuelles, sans toujours recourir à la technologie. Apprendre lentement mais sûrement en utilisant un stylo, des feuilles de papier, des pinceaux, un instrument de musique, faire du sport ou tout simplement bouger, abandonner l'écran et se déconnecter. La capacité de prendre de la distance par rapport à l'immédiat, privilège de la lente maturation. Enfin, les alphas devront se pencher sérieusement sur la question de la survie de la planète, un combat qu'a entrepris la génération Z et qu'ils devront poursuivre. Ils devront trouver des solutions au changement climatique, au déclin de la biodiversité, en modifiant leurs propres habitudes et comportements, tout en faisant pression sur les gouvernements afin qu'ils mettent en place des lois environnementales plus contraignantes encore. Cette urgence, les alphas la ressentiront également envers les machines intelligentes que l'on développe à une vitesse exponentielle et qui défient déjà l'intelligence humaine. Pour lutter contre la concurrence des robots, la génération Alpha aura à renoncer au discours alarmiste et à réguler de manière préventive l'intelligence artificielle. Elle devra aussi imaginer les mots, imaginer les moyens de protéger les données personnelles ainsi collectées et revoir les lois en vigueur. Mais par-dessus tout, elle sera appelée à redéfinir et à réinventer le rôle même de l'être humain. La COVID-19 représentait à elle seule une catastrophe mondiale qui nécessitait de revoir ses manières de faire et d'être individuellement et collectivement. Une mission de bienveillance que devront poursuivre les générations subséquentes. En attendant, permettons au petit Alpha de vivre son âge, d'exercer son imagination, de découvrir ses ambiguïtés, de faire des erreurs. Parlons-lui au lieu de le texter. Réservons des périodes bien définies à l'usage de la tablette. Alors, je m'arrête ici et puis je m'en vais visionner mon ordinateur.
Ben oui, c'est ça. On va s'inspirer des Alphas. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet.
Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire, j'aurais pu compter tout. J'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tout.
C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques instants pour terminer ce rendez-vous de Folie Douce. Alors Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine.
Oui.
La première, comme une chanson, justement.
Oui, de Mathilde.
Oui, on a entendu « Quand je serai grande ».
De Ariane Roy.
Dans la deuxième moitié de l'émission « Fais-moi rêver ».
De Alpha Rococo.
Un de nos groupes chouchous d'ailleurs.
Oui.
Et à l'instant, « Hématome ».
De l'Impératrice.
Bien, merci beaucoup pour ce choix musical ainsi que pour ton travail en régie.
Bien, bienvenue mon cher.
Et merci aussi pour ton sujet, « La génération Alpha, les enfants instruits de la génération Y ». On a appris beaucoup de choses. Ça m'intéresse toujours ce genre de portrait un peu démographique.
On pourrait y revenir.
D'une génération, c'est intéressant, merci. Notre invité en début d'émission, Locke Corrie, nous a parlé du regroupement québécois du parrainage civique. Et notre collaboratrice Catherine Stassin a apporté sa chronique « La dysthymie ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.